connaître le monde, je veux voir autour de moi tout ce qui se passe, tout ce qui se dit. Eaton, Eaton, tant que tu seras dans ma ville. Second épisode de ce savoureux podcast avec l'ami Yves Lapierre en direct de son vignoble à Tarn-et-Garonne, en France. Y'a rien de meilleur que les petits bonheurs de McDonald's.
Je me souviens d'une campagne pour le Tourisme Canada. Okay. Où on avait fait genre 48 messages radio. Tu sais.
Oh.
Wow. Ouais. Une, tu sais, pour eux. Fait que c'est. Il y a des Air Canada qu'on faisait, il y avait un message pour chaque destination. T'imagines? C'était avec des tonnes différentes de musique, puis tout ça, tu sais, ça.
Oh, ouais.
Fait que
oh, ouais.
Ça, c'est, on a connu ça, mais aujourd'hui, une campagne, c'est deux messages.
Ah, go!
Encore là, oui. Parce qu'il y en a eu des célèbres, comme tu mentionnes, et puis comme on a vu l'efficacité de ce que ça a pu faire, il y en a eu tellement qui restent là. Tu as eu contact avec Annie Chevalier, qui,
oui.
La première fois que je l'avais rencontrée, elle m'avait chanté la première pub que j'avais composée.
Ah ouais?
Sans savoir que c'était moi.
Ah, c'était quoi? C'est laquelle?
C'était, ça devait être en 68 ou 69, c'était Cinzano, le drink Cinzano.
Ah ouais.
C'était Cinzano.
Oui, oui, mais je m'en rappelle.
Hein?
Je m'en rappelle, je dis ça encore des fois.
En haut de l'escalier, en peinturant ou un truc comme ça, une affaire de, c'était en faisant des travaux à la maison, puis Cinzano. Mais Annie, elle savait par cœur.
Ah oui.
Les paroles et tout.
Ah ouais.
Ça m'a fait rire parce que je me dis, tu tombes bien, mais c'est moi qui ai composé ça. Alors, mais effectivement, c'était une façon de rentrer dans la tête.
Les verres d'oreille. C'est quoi, y en as-tu une ou quelques-unes dont tu es le plus fier, que tu te rappelles toi encore et que tu te mets à chantonner de temps en temps en cultivant ton raisin?
C'est sûr qu'il y en a eu dont j'étais fier musicalement. C'est-à-dire dont j'étais fier artistiquement de ce que c'était,
ouais.
Et d'autres dont j'étais fier commercialement.
Okay.
Les grandes réussites tu sais, de certains jingles, ben, même si c'était de la pub malgré tout, mais le truc de Radio-Québec est un des
ouais.
qui réunit un peu les deux.
Ouais,
parce que ça, commercialement, ça a fait un grand tour et ça a donné de la notoriété beaucoup à une télévision balbutiante là, au début. Mm-hmm. Là, mais,
ouais.
Et puis, artistiquement, c'était le fun parce qu'on avait, comme je te dis, des centaines de versions à faire et avec autant d'originalité de l'une à l'autre, que ce soit pour sur un 15 secondes d'animation, par exemple,
ouais.
Ou quelqu'un dans la neige, tu sais, là, on avait quelque chose dans... Ou alors, carrément, la grande chanson, la version Boléro de Ravel, ou la version...
Ah ouais.
Flashdance ou la version, tu sais, on en a fait là, des grands avec Véronique Plain. Ça, c'est des choses que moi, j'ai retenues. Je retiens commercialement le grand succès qu'on avait fait dans les années fin 70, mi-70 peut-être pour Eaton. Eaton, tant que tu seras dans ma ville, je magasinerai tranquille. Là.
C'est vrai.
Ça a été un énorme succès, puis ça a été exploité à fond.
Ah ouais.
Utilisé à fond et puis ça a marqué toute la campagne qu'on avait lancée autour de Timothée. Là. Timothée Eaton,
c'était
une histoire de ça. Alors, ça, c'est un truc qui a bien marché. Évidemment, des bières, je te dis pas, il y en a. J'y faisais presque toutes, là. Puis il y a eu des grosses campagnes, tu sais. Il y a eu Sam prend une 50. Il y a eu. Bien évidemment, comme tu mentionnes, ça c'était Dompierre, là, le 6 millions, là. Mais
ouais.
On en a eu. J'ai même eu. On préparait toujours ça à peu près fin février, début mars, là. C'était pour les débuts des éliminatoires du hockey.
Ouais.
On commençait à préparer ça. Et là, on faisait en février, on faisait des maquettes, là, des démos pour développer des campagnes puis tout ça. Puis, je me souviens d'être entré dans un briefing où, après avoir fait un démo pour la BAT, les gens de Molson me donnent un briefing avec le même slogan que celui que je venais de faire sur la BAT. Qu'est-ce que tu fais? là, tu dis, je travaille beaucoup de ce temps-là, et je ne suis pas sans savoir que je travaille pour d'autres aussi. Je me permets de vous dire que le slogan, il est déjà utilisé. Là, les patrons se sont appelés, puis ils m'ont les deux remercié d'être venu clé, puis ça. Mais je pense que c'était une vraie bière, c'est ça. Là. C'est Molson qui l'avait emporté. L'autre est obligé de baisser la tête un peu, puis faire une campagne intérimaire, tu sais, d'un an, puis après ça, trouver quelque chose de fort pour l'année d'après.
Comprends.
Mais c'est des circonstances qui font qu'il y en avait tellement des jingles. Tu ne pouvais pas sortir une campagne de bière sans mettre un jingle.
Ben non.
C'était impossible, ça.
C'était une hérésie.
Et donc, il y en a eu des célèbres là-dedans. J'ai fait des choses pan-canadiennes dont j'ai gagné des Clio à Chicago pour des choses plutôt anglaises, là, pour Air Canada. Début des années 80, j'ai gagné des choses au niveau canadien aussi pour une grosse campagne qui a duré peut-être 3 ans ou 4 ans sur la BAT 50 anglophone. Coming Home to Your World. C'était une énorme campagne avec j'avais des chanteurs de vedettes de partout. Ouais. C'était très important. Puis c'était le fun parce qu'on a rapatrié ça à Montréal. Tu sais.
Ben ouais.
Ouais. Alors, si c'est difficile, il faudrait que j'aille une liste devant moi, une liste exhaustive devant moi pour te dire celui-là, celui-là, celui-là. Mais tu sais, j'étais en gros, là. On avait un espace de travail, une facilité de travail, puis une machine bien huilée qui nous permettait de faire de la qualité quand même. Tu sais, malgré le peu de temps dont on disposait, on avait vraiment une bonne machine, là, tu sais, des musiciens à disposition, des chanteurs à disposition, pas en exclusivité, mais presque au moins en priorité.
Okay.
Et il y a un studio continuellement à disposition, tout ça. Donc, j'avais mes pantoufles en dessous de la console. Ah ouais. Alors, ça nous permettait de pouvoir en faire deux par jour à la rigueur. Tu sais.
Puis, est-ce que tu t'occupais uniquement de la composition musicale ou tu étais appelé à jouer dans les mots aussi?
Presque jamais. J'ai jamais eu à jouer dans les mots. Il m'est arrivé à l'occasion de me joindre à l'équipe de conception pour... surtout quand il s'agissait d'un jingle, pour élaborer une idée pour faire partie du concept, si tu veux. Il y avait des concepteurs qui disaient, ben, si on fait un concept musical, ça serait peut-être bien qu'on ait un musicien sur notre équipe, l'équipe de création, je pense. Je pense à une pub qui a été très courte. Ben, de toute façon, pour McDo, les pubs sont toujours très courtes, parce qu'ils recouvraient pas mal. Mais c'était une lune. Un bonhomme avait une tête de demi-lune, il y avait un bonhomme qui faisait du piano-bar ou qui chantait. C'était une pub qui venait de Los Angeles, qui était une pub locale en Californie.
Okay.
Et que les gars avaient pris, ils voulaient qu'on la fasse en français. Et moi, j'avais suggéré qu'on fasse la position d'une lune, qu'on y fasse chanter « Je me fous du monde entier », tu sais, Frédéric de Claude Léveillé. Ah, ouais. Donc, on avait fait appel à Claude Léveillé pour nous prêter les droits, enfin nous charger les droits de cette chanson-là. Et ça, c'était une idée qui avait beaucoup plu d'un côté, mais qui avait fait quand même certains brouhahas au niveau... Il y a eu des gens qui se sont élevés un peu contre ça. T'sais.
Parce que l'artiste laissait sa chanson à la pub, c'était un sacrilège.
Parce que, ouais, voilà, exact, le sacrilège, exactement. Un peu de ça. Surtout une chanson aussi connue que ça. Mais moi, je trouvais ça drôle de la part d'une lune de chanter « Je me fous du monde entier » quand c'est la lune qui chante.
Ouais.
Je trouvais ça drôle. Ça avait eu un assez bon succès. On avait une radio qui avait eu beaucoup de succès où j'avais chanté, c'est moi qui l'avais chanté d'ailleurs, j'avais chanté des petits déjeuners de McDo un peu comme Yves Montand.
OK.
Et ça avait marché. À Québec, les gens téléphonaient au poste pour savoir qui chantait. Juste parce que ça touchait quelque chose, ça n'avait jamais été fait, ou je sais pas quoi. Non. Alors ça, c'est des affaires que je contribuais quand on me demandait de contribuer à, pas nécessairement aux paroles, mais particulièrement à l'élaboration du concept, là, à la direction. Ça, c'était le fun. Mais je voyais bien, par contre, dans quoi on s'embarquait quand on faisait ça, tu sais. Faire face à un client là, qui a le droit de veto sur tout ce que, tu sais, le client ouais. À qui tu fais jouer ça, puis qui rit pas, puis qui fait rien, puis que, ouais. qui te regarde d'un drôle d'air, puis tout ça, tu sais. Alors que quand on faisait la musique, ben, personne connaissait ça, c'était beau, tout tabou, tu sais, du moment que ça chantait, c'était
ah,
beau.
Ouais.
Mais quand tu rentres dans l'aspect concept, ou l'aspect même texte, là, où les gens sont plus critiques, là, tu y goûtes un peu plus.
Je te parlais des textes parce que écrire, c'est une chose, mais écrire pour de la musique, il y a une musicalité des mots, faut que ça tombe aux bonnes places. Donc, le writer doit être super sensible à l'art d'écrire une chanson, je dirais. Ouais.
Quand on avait à faire des versions de choses américaines, ou en Canada ou anglaise, là, on avait des meilleurs et des moins bons. Là, il m'arrivait de m'impliquer ou de. Quand je savais que j'avais assez d'influence
ouais.
Pour. Le meilleur exemple de ça, c'est McDo nous arrive à un moment donné avec un truc anglais qu'il fallait adapter en français, un nouveau. Puis quand McDo nous arrive avec une nouvelle signature, on sait qu'on est pogné avec pour 5 ans.
Ouais.
Alors, c'était « It's a good time for the great taste of McDonald's
mm-hmm. ».
Et le rythme est très précis, « It's a good time for the great taste of McDonald's ».
Of McDonald's.
Et alors, en français, le gars avait eu le génie de traduire ça par « Il n'y a rien de meilleur que les petits bonheurs de McDonald's ». Ça dit exactement la même chose, mais c'est tellement plus québécois mm-hmm. et tellement plus cute.
Mm-hmm.
Il y avait quelque chose de bien. Sauf que si tu le mettais sur la musique, « It's a good time for the great taste of McDonald's
ouais. ».
En français, ça faisait « Il n'y a rien de meilleur que les petits bonheurs de McDonald's
mm-hmm. ».
Et ça ne marche pas. Mm-hmm. Les accents toniques sont tous déplacés, c'est pas beau.
Mm-hmm.
Alors moi, j'avais dit « On va juste déplacer ça d'une double cloche, ça va faire « Il n'y a rien de meilleur que les petits bonheurs de McDonald's ».
Ah ouais, c'est vrai.
Et là, ça marche.
Okay.
Là, tout d'un coup, ça devient comme une chanson qui a été écrite en français. Et
ouais.
Alors que si tu le cales, le gars qui l'avait écrit, le texte en français, lui, il l'avait collé comme je t'ai fait la première fois avec mm-hmm. tes accents déplacés.
Ouais.
Et puis moi, j'ai dit, ben regarde, moi, je te suggère de faire comme ça. Le gars me dit, ouais, tu es sûr? J'ai dit, ben écoute, est-ce qu'on a les moyens? On va faire une maquette. On va le vendre comme on fait une maquette juste pour montrer
ben ouais.
que c'est Dieu comme ça, tu sais. Alors, on fait une maquette et tout ça. Et j'ai dit, ben là, le client s'en vient, là, il s'en vient écouter ça. Alors, je dis à mon gars, à mon concepteur, à tout ça, je dis, là, on se tient solide. Là.
Mm.
Là, on y vend ça, là, parce que t'es d'accord avec moi que c'est
mieux.
C'est bien mieux comme ça. Ben, tout ça. Le client arrive dans le studio et il dit, c'est pas tout à fait comme l'anglais. Hein. Puis là, mon astigme. Le concepteur, il me dit, gars, je te l'avais dit.
Asti de talent.
Asti. Je voulais t'as le défoncer.
Comprends.
On a gagné pareil, là, tu sais.
Uh-huh.
Je suis allé voir son boss, puis ça. Faut dire, il y a un moment donné où ma carrière était tellement, si tu veux, bien installée,
mm-hmm.
que j'avais un peu la tête comme ça, puis que je me permettais de forcer, puis de. Puis quand ça marchait pas, j'allais voir le boss. Tu sais. Puis il y a des fois, sur McDo, je connaissais mieux le client que le concepteur.
Là. Ah ben oui. Toi, tu étais toujours là, les concepteurs voulaient eux autres.
Exact, exact.
Mm. Voilà.
Donc, fait que ça me permettait de pouvoir imposer certaines idées, au moins de suggérer fortement certaines affaires, puis d'avoir la crédibilité pour le faire. Ça ne m'attirait pas toujours les meilleures félicitations du concepteur qui se faisait marcher dessus, mais bon, c'était... Moi, j'étais... Tu sais, je faisais quasiment juste ça dans la vie, tu sais.
Ah ouais.
C'était mon métier, c'était...
Dans le temps, le monde t'appelait-tu Yves Labière?
ça c'est arrivé, oui. Effectivement.
Je te remercie beaucoup, Yves. C'est super gentil, c'est super intéressant, cette remontée dans non seulement ton passé, mais mes souvenirs à moi-même, parce que
ouais.
je suis plein de verres d'oreilles tout d'un coup, là.
C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir été à l'écoute. Si le cœur vous en dit, poursuivons cette conversation sur Twitter via le hashtag greniermag et mon identifiant Pizza for All. Pour écouter d'autres podcasts, rendez-vous sur le Grenier aux Nouvelles. Vous pouvez également me retrouver dans la section podcast d'iTunes sous Das Podcast. ou bien venez donc faire un petit tour sur mon site web miron.co. À la prochaine!